Séoul au jour le jour. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 10 juin à Séoul et aujourd'hui la Corée du Sud célèbre l'anniversaire de la manifestation démocratique du 10 juin 1987. Cette journée, reconnue comme commémoration nationale, rappelle le soulèvement populaire qui a ouvert la voie à la démocratie sud-coréenne. À travers tout le pays, des événements sont organisés pour transmettre l'esprit de justice, de courage et de liberté. Ce n'est pas un simple regard tourné vers le passé, mais une invitation à se souvenir que les libertés dont nous disposons aujourd'hui sont le fruit de luttes et de sacrifices. C'est en se souvenant de ce tournant historique que s'ouvre notre édition de ce mardi. À Séoul, les 1er et 2 juillet, le Dongdaemun Design Plaza accueillera le Salon de l'Emploi 2025, un rendez-vous annuel destiné aux chercheurs d'emploi âgés de 40 à 64 ans, organisé par la Fondation Séoul 50+. Cette année encore, pour sa 3e édition, l'événement revient avec une ambition renforcée. Désormais organisé sur 2 jours au lieu d'un, il devrait réunir 120 entreprises et attirer plus de 5000 visiteurs. L'objectif reste le même, créer un espace de rencontre entre les recruteurs et les personnes en quête d'un nouveau départ professionnel. Le salon proposera plusieurs espaces, chacun conçu pour accompagner les différentes étapes du parcours des participants. Des entretiens seront menés avec les entreprises dans un premier pôle, tandis qu'un autre se concentrera sur l'accompagnement professionnel pour celles et ceux qui souhaitent réorienter leur carrière. Une zone sera réservée aux missions ponctuelles ou aux emplois plus souples, et un dernier espace permettra d'accéder à des informations sur les politiques publiques destinées aux personnes d'âge moyen et mûr. L'événement offrira également des services pratiques, prise de photos pour les CV, conseils en images individualisées et appui à la rédaction des candidatures. 120 entreprises sélectionnées en amont pour leurs besoins en recrutement, ciblant les profils seniors, participeront. Certaines d'entre elles, notamment dans des secteurs à fort potentiel, présenteront les postes à pourvoir lors de sessions dédiées. Les inscriptions pour participer à ce rendez-vous ainsi que le dépôt des candidatures aux offres d'emploi sont déjà possibles depuis hier, le 9 juin, sur le site 50plus.or.kr. Il sera également possible de s'enregistrer sur place et tous les programmes seront entièrement gratuits et accessibles sans condition. Les personnes inscrites en amont pourront, si elles le souhaitent, bénéficier d'un coaching personnalisé pour préparer leur recherche d'emploi. Kang Myung, directeur de la fondation, souligne que cet espace de rencontre permettra aux candidats expérimentés de mettre en valeur leur parcours, de se familiariser avec les évolutions du monde du travail et de retrouver un lien actif avec la société. Ici, c'est interdit de fumer. Veuillez rejoindre l'espace fumeur. Le 2 juin, vers 10h, sur la place de la gare de Séoul, un homme a sorti une cigarette et un agent portant un gilet marqué « Centre de santé » l'a interpellé. L'homme, surpris puis agacé, a baissé la main et a grogné. On n'a même plus le droit de fumer tranquille. Un peu plus tard, vers 10h30, un autre homme d'une 60aine d'années, visiblement ivre, est apparu, une cigarette à la bouche. L'agent s'est approché pour le guider vers la cabine prévue, mais l'homme a haussé le ton. « Je ne l'ai même pas encore allumé », s'est-il exclamé, puis a lancé « Même fumer une cigarette devient compliqué ». Autour de lui, quelques sans-abri fumés en pleine rue, installés sur les marches, en dépit des avertissements sur place. Mais que s'est-il passé pour provoquer une telle scène dès le matin? Depuis le 1er juin, les arrondissements de Cheong et de Yongsan ont officiellement classé l'ensemble du site comme zone non-fumeur. L'espace concerné couvre 56 800 m², soit l'équivalent de 8 terrains de football. Il s'agit d'un point de passage très fréquenté, avec un centre de correspondance pour bus et des stations de taxi. Pour faire respecter cette nouvelle réglementation, des équipes des deux arrondissements, accompagnés de policiers de Namdaemun, ont été déployés sur la place de la gare de Séoul. Les fumeurs doivent désormais se rendre aux deux cabines installées près des sorties 1 et 3 du métro. En cas de non-respect, une amende de 100 000 won, soit environ 70 euros, est appliquée. Il convient de rappeler que cette mesure n'est pas tombée du jour au lendemain. Une période de sensibilisation de 2 mois avait été menée par les autorités locales. Des banderoles avertissant de la désignation en zone non-fumeur avaient été suspendues sur l'ensemble de la place et des marquages au sol, en coréen et en anglais, précisaient le montant de l'amende. Toutefois, ces messages n'avaient manifestement pas suffi à faire respecter la règle. Malgré quelques comportements réfractaires, la plupart des citoyens se sont montrés favorables à cette nouvelle mesure. Cho, un étudiant de 23 ans, raconter. À chaque fois que je vois quelqu'un fumer dans la rue, je dois me boucher le nez. Et puis, la gare de Séoul, c'est un endroit très fréquenté par les touristes. Interdire de fumer, ça donne une meilleure image du pays. Même les fumeurs, comme Kwan, 43 ans, admettent que cette décision a du sens. Je comprends que ce soit nécessaire, surtout pour les non-fumeurs. C'est un peu galère, mais bon, on s'adapte. Toutefois, tous ne partagent pas cet avis. Certains fumeurs regrettent le manque d'espace qui leur sont réservés. Park, 35 ans, reconnaissait la nécessité de mieux encadrer le tabagisme dans un lieu aussi fréquenté, mais soulignait aussi « il y a trop peu de cabines, c'est ça le vrai problème ». Cet été, les eaux entourant la péninsule de Corée devraient enregistrer une température de surface d'environ 1 degré plus élevée que la normale. Selon les analyses de l'Institut National des Sciences Halieutiques, le NIFS, publié le 2 juin, la période de juin à août pourrait même dépasser les records historiques établis l'an dernier. Dans son rapport intitulé « Prévision de la température de la mer pour l'été 2025 », le NIFS indique que la hausse concernera surtout les côtes de la mer du Sud et de la mer Jaune. Cette situation s'explique par le renforcement et l'élargissement de l'anticyclone du Pacifique Nord, susceptible de générer une haute température marine et d'accentuer le réchauffement des eaux de surface. Entre juin et août, la température moyenne des eaux devrait atteindre 25,3 degrés, soit 1,5 degré de plus que la moyenne observée sur les 30 dernières années. Pour la période de juillet à septembre, elle grimperait à 25,9 degrés, soit 1 degré au-dessus des normales. L'an dernier, entre juin et août, la température avait déjà atteint un sommet historique de 24,75 degrés. Cette année, elle pourrait encore progresser de 0,55 degrés. Toutefois, la moyenne prévue entre juillet et septembre resterait 0,97 degrés en dessous du record de 26,87 degrés observé en 2024. Contrairement à l'agence météorologique coréenne qui limite l'été à la période de juin à août, l'organisme de recherche halieutique étend cette saison jusqu'à la mi-septembre. Ce choix repose sur une réalité physique. L'eau, avec sa capacité thermique plus élevée, met plus de temps à se réchauffer que la Terre. Selon un chercheur spécialisé dans le changement climatique au sein de l'Institut, les vagues de chaleur exceptionnelles de l'an dernier se sont principalement produites entre août et septembre, le phénomène ayant persisté jusqu'à la fin de la saison. Dès la mi-juillet, une alerte pour haute température marine pourrait donc être déclenchée. Elle s'applique lorsque la mer reste au-dessus de 28 degrés pendant 3 jours consécutifs. En 2023, cette alerte avait été en vigueur 57 jours, du 28 juillet au 22 septembre. L'année dernière, elle avait duré 71 jours, du 24 juillet au 2 octobre. Au-delà des conditions climatiques, ce sont désormais les conséquences concrètes qui inquiètent. La perspective d'une nouvelle vague de chaleur marine suscite des préoccupations, notamment en ce qui concerne les pertes humaines et matérielles. En 2024, les élevages de poissons et de coquillages avaient subi des dommages évalués à 143 milliards de won, soit 92 millions d'euros. Le contraste de température entre la mer et la terre avait aussi provoqué de nombreux brouillards sur les côtes du sud et de l'ouest, augmentant les risques d'accidents maritimes. En effet, 119 personnes avaient perdu la vie ou disparu, soit une hausse de 65% en un an. Pour éviter que le scénario de l'an dernier se répète, le NIFS insiste sur la nécessité d'une préparation active dans les zones concernées. Il invite les acteurs de la filière à renforcer leur capacité de réponse en surveillant attentivement la température, en améliorant les infrastructures et en adaptant les conditions d'élevage. Écoutons à présent Hot Summer de FX.
Vous avez aimé ? Vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Vous écoutez Séoul au jour le jour et l'édition de ce mardi 10 juin 2025 vous est présentée par Maxime Lalot. Moins de shopping, moins de sorties, ils gagnent plus mais n'en profitent pas vraiment. En Corée du Sud, les jeunes se montrent plus prudents avec leur argent malgré des revenus en hausse. Au premier trimestre de cette année, les moins de 40 ans ont vu leurs revenus augmenter. Pourtant, leur propension à consommer a reculé, principalement en raison des coûts du logement de plus en plus lourds. Cette sobriété ne touche pourtant pas tous les secteurs. Si les jeunes adultes réduisent leurs dépenses dans des domaines comme le transport, l'alimentation, l'habillement, ils continuent d'investir dans la culture et les loisirs. Même s'ils mangent moins ou remettent à plus tard certains achats, ils refusent de faire une croix sur les plaisirs personnels. D'après les données du service coréen d'information statistique, les adultes de moins de 40 ans ont perçu au premier trimestre un revenu mensuel moyen de 5,48 millions de won, soit environ 3750 euros, en hausse de 8% par rapport à l'année précédente. Pourtant, leur propension moyenne à consommer est tombée à 65,2%, enregistrant une baisse de plus de 6 points. Cet indicateur économique correspond à la part du revenu total qu'un ménage consacre à l'achat de biens et de services. Autrement dit, plus cette proportion recule, plus elle traduit un repli de la consommation au profit de l'épargne ou d'un mode de vie plus mesuré. Dans les faits, au cours du premier trimestre, ce ralentissement s'est manifesté dans de nombreux domaines de dépenses. Les transports ont chuté de 20,3%, les vêtements et chaussures de 11,5%, les produits alimentaires de 3,3%, l'alcool et le tabac de 7% et le budget consacré à l'entretien du foyer de 8,2%. Selon les analystes, cette tendance reflète la manière dont les jeunes ajustent leurs priorités face aux pressions économiques. Ils revoient à la baisse les achats jugés secondaires, mais tiennent à préserver ce qui enrichit leur vie intérieure, comme les activités culturelles, artistiques ou personnelles. S'ils resserrent les cordons de la bourse, c'est notamment parce que leur budget logement ne cesse d'augmenter, alourdi par les effets des taux d'intérêt élevés. Chez les moins de 40 ans, le budget incluant le loyer et les charges a grimpé de 190 258 won au cours du premier trimestre, soit une hausse de 14,8% sur un an. Dans le même temps, les frais d'intérêt, quant à eux, ont connu une hausse de 3,7% pour atteindre un niveau de 185 205 won. Certains mots, utilisés au quotidien sans y prêter attention, peuvent pourtant véhiculer des visions dépassées ou renforcer certains stéréotypes. C'est à partir de ce constat que le comité présidentiel sur la faible natalité et le vieillissement démographique a décidé de modifier certains termes liés au mariage, à la naissance et à la parentalité dans la petite enfance. En Corée du Sud, chaque parent peut bénéficier de 18 mois de congé parental par enfant. Pourtant, ce droit reste difficile à exercer librement dans le monde du travail. Le mot « congé » donne à penser qu'il s'agit avant tout de faire une pause plutôt que de s'occuper activement de son bébé. Nombre de salariés disent donc redouter les regards de leurs collègues comme s'ils partaient en vacances. Pour changer cette perception, l'autorité propose d'autres appellations, période de concentration parentale, période de pleine implication parentale ou encore temps dédié à la prise en charge de l'enfant. Plusieurs appellations courantes font également l'objet d'une relecture. Le congé pour fausse couche ou mortinaissance pourrait devenir un congé de rétablissement ou un congé de soutien émotionnel. Quant à l'expression « femme ayant interrompu sa carrière », elle serait remplacée par des formules plus valorisantes, comme « femme ayant une expérience professionnelle ». Le comité a indiqué que, selon certains témoignages recueillis auprès des familles, ces mots entretiennent des stéréotypes au travail et contribuent à alimenter des regards pesants. D'autres termes ancrés dans la vie de tous les jours sont également remis en cause. Par exemple, le mot coréen « yumocha », qui renvoie littéralement à une poussette utilisée par une nourrice, céderait la place à « yuacha », une désignation plus neutre, centrée sur l'enfant. L'appellation traditionnelle « chipsalam », soit celle qui reste à la maison, pourrait être abandonnée au profit de conjointes plus égalitaires. L'institution envisage également de supprimer la distinction entre grand-mère maternelle et grand-mère paternelle. Le comité présidentiel sur la faible natalité et le vieillissement démographique envisage aussi de modifier son propre nom. Le terme « natalité », jugé culpabilisant pour les femmes, pourrait être remplacé par « naissance », une formule plus neutre qui décrit la situation sans désigner de responsable. Depuis plusieurs années, de nombreuses voix critiquaient cette dénomination, estimant qu'elle faisait reposer tout le poids de la situation sur les femmes. Pour aller plus loin, le comité a déjà proposé des alternatives pour 32 expressions. Un sondage national en ligne sera également lancé à partir de ce mois-ci afin de recueillir l'opinion des citoyens. Pour les mots encore en débat, l'organisme entend s'appuyer sur les spécialistes et les ministères concernés. Après les mots, ce sont les gestes du quotidien qui changent. En Corée du Sud, de plus en plus de pères participent aux soins de leurs tout-petits, qu'il s'agisse de les nourrir, de les laver ou de les coucher. Ces rôles, autrefois réservés aux mères, sont aujourd'hui partagés de façon plus équilibrée. D'après le dernier numéro de la revue Forum de la Santé et du Bien-être, publié le 2 juin par l'Institut sud-coréen de la Santé et des Affaires Sociales, le taux de participation masculine aux soins directs, comme coucher leur enfant, lui donner à manger ou lui changer les couches, a progressé de plus de 10 points de pourcentage au cours des 5 dernières années. En 2023, 90,4% des foyers comptaient encore sur la mère comme principale figure parentale, d'après une enquête du ministère de la Santé et du Bien-être. C'est un léger recul par rapport à 2018, où ce chiffre atteignait 92%. Ce changement reste modeste, mais il signale que les pères commencent peu à peu à prendre une place plus importante dans les tâches parentales et l'éducation des enfants. Cette évolution, bien que lente, se reflète clairement dans la vie de tous les jours. En 2023, 24,5% des pères couchent leur bébé presque tous les jours, contre 11,2% en 2018. Durant cette même période, la part des hommes qui changent les couches a elle aussi fortement augmenté, passant de 13,9% à 26,5%. Ils sont également deux fois plus nombreux à donner le bain, avec une hausse de 8,4% à 17,5%. En ce qui concerne les repas, petits pots au biberon, près d'un sur trois y prend part désormais. Pour Kim Ji-hyun, chercheuse à l'Institut coréen des politiques familiales, plusieurs éléments expliquent cet engagement croissant. D'abord, la pandémie a poussé les familles à passer plus de temps ensemble, ce qui a changé les habitudes. À cela s'ajoute une évolution des mentalités, la généralisation des congés paternels ainsi que des politiques publiques qui incitent les pères à jouer un rôle actif auprès de leurs enfants. Et juste avant de passer le micro à Christelle Drouat pour carte postale, je vous propose une deuxième et dernière pause musicale avec Father, interprété par Psy.
Recevoir une carte postale exotique de la part d'un ami, ça fait plaisir. Et si elle était sonore ? Mode, exposition, festival, découvrez chaque mardi avec Christelle Drouat les dernières tendances en Corée.
Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un joyau du patrimoine coréen. Le village Hanok de Wangok, situé dans la comté de Gosong en province de Gwangwon. Ce village niché au cœur de 5 montagnes et à seulement 1,5 km de la mer est un véritable voyage dans le temps où l'histoire, l'architecture et la vie traditionnelle se mêlent harmonieusement. Le village de Wangok trouve ses racines au XIVe siècle, à la fin de la dynastie Goryeo. Son histoire commence avec un érudit royal, Ham Bu-yeol, qui, en protestation contre la montée de la nouvelle dynastie Joseon, quitte la capitale pour s'installer dans cette région reculée. Plus tard, son petit-fils et la famille Choi de Gwangneung fondent le village actuel. Les descendants de ces familles ont traversé les siècles, reconstruisant le village après sa destruction lors des invasions japonaises de 1592 à 1598, et perpétuant ainsi son style de vie ancestral. Wangok se distingue par sa densité unique de maisons traditionnelles, appelées Hanok. On y trouve 20 maisons aux toits de tuiles et 30 maisons aux toits de chaume, toutes vieilles de plus de 200 ans. Ces maisons classées patrimoine national sont remarquables par leur adaptation au climat rigoureux de Gangwon. Les entrées sont orientées au sud-ouest pour se protéger des vents froids, les fondations sont surélevées pour éviter l'humidité et les cours ouvertes maximisent la lumière du soleil et la fonte de la neige. La disposition des pièces en forme de giok, le premier alphabet coréen, permet une circulation naturelle de la chaleur avec la cuisine chauffante, la chambre principale et un foyer séparé pour la chambre d'amis. Les clôtures basses et les jardins délimitent les espaces tandis que l'absence de porte d'entrée souligne la solidarité familiale et villageoise. Wangok est un village vivant habité par les descendants des fondateurs qui continuent à cultiver la terre et à perpétuer les traditions. Les visiteurs sont invités à respecter la tranquillité des lieux et la vie privée des habitants. Le village propose des expériences culturelles de mai à octobre, comme la fabrication de gâteaux de riz, de tofu, de sucreries traditionnelles, ou encore la participation à des jeux folkloriques comme le lancer de flèches ou la roue du cerceau. Des activités saisonnières comme la dégustation de vin local ou la teinture des ongles avec les fleurs de balsamine permettent de s'immerger dans la culture locale. Le 14e jour du premier mois lunaire, la coutume veut que l'on mange 9 bols de riz et que l'on transporte 9 charges de bois, symbolisant la santé et la prospérité pour l'année à venir. Le village se visite à pied le long d'un sentier balisé. La promenade dure environ une heure. Sur place, une végétation luxuriante, des champs de riz, des murs de pierre bas et des fleurs jaunes créent un cadre bucolique. Les visiteurs peuvent profiter d'un restaurant végétarien proposant des légumes de montagne ou acheter des biscuits de riz faits maison dans une maison du village. Le village Hanok de Wangok est bien plus qu'un simple site touristique. C'est un témoignage vivant de l'histoire coréenne, un lieu où l'architecture, la nature et la tradition se rencontrent harmonieusement. Pour les amateurs d'histoire, de culture ou simplement de beauté naturelle, Wangok offre une expérience inoubliable à l'écart de l'agitation des villes modernes.
Ainsi se termine votre émission Séoul au jour le jour. C'était Hajinwa à la rédaction, Maxime Lalo au micro et Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de KBS World Radio.